Je voudrais lire d'abord un verset dans Ésaïe. Ésaïe 41, verset 14. Ne crains point, toi, Jacob, vermisseau. Moi, je t'aiderai, dit l'Éternel, et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Chapitre 44, la fin du verset 21. Tu ne seras pas oublié de moi. Il peut nous arriver de souffrir de la solitude, de l'isolement, et de se sentir tellement peu de choses. N'être rien. Et il y a cette expression remarquable du verset 14 d'Ésaïe 41. L'Éternel qui s'adresse à Jacob et qui l'appelle un vermisseau. Un vermisseau, c'est peu de choses. Et l'Éternel lui dit, moi, je t'aiderai. Nous pouvons être dans des difficultés extrêmes. Ne pas savoir comment s'en sortir, une solitude, même au milieu de la foule. Et il y a cette expression du chapitre 44, « Tu ne seras pas oublié de moi, et même si tu te considères comme si peu de choses, un vermisseau, un petit ver, eh bien, l'Éternel dit, je t'aiderai, je ne t'oublie pas, je t'aiderai. » Dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, verset 2, et la parole de l'Éternel vint à lui, à Élie le Tisbite, « Va-t'en d'ici et tourne-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent du Kérit qui est vers le Jourdain. Et il arrivera que tu boiras du torrent et j'ai commandé au corbeau de te nourrir là. » Et il s'en alla et fit selon la parole de l'Éternel. Il s'en alla et habita au torrent du Kérit qui est vers le Jourdain, et les corbeaux lui apportaient du pain et de la chair le matin, et du pain et de la chair le soir, et il buvait du torrent. Élie le Tisbite qui se tenait devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, eh bien, il obéit à la parole de l'Éternel et il se trouve dans une situation particulière, dans la solitude, avec aucun moyen de subsistance. Et avant d'envoyer son serviteur devant le roi Achab, devant Jézabel, nous voyons qu'Élie le Tisbite avait besoin d'apprendre cette grande leçon. que même quand il n'y a plus de ressources, eh bien l'Éternel va le nourrir matin et soir. Et pour chacun de nous, et dans chaque situation peut-être extrêmement difficile, nous avons à apprendre que nous avons peu de force, que nous n'avons pas de force, que nous sommes des vermisseaux. Mais je ne t'oublierai pas. Et l'Éternel donc avait commandé au corbeau de le nourrir là, et les corbeaux lui apportaient du pain et de la chair le matin, et du pain et de la chair le soir, et il buvait du torrent. Encore dans Jean 14, au verset 18, le Seigneur qui parle, après avoir révélé qu'ils allaient recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, le Seigneur s'adresse à ses disciples et leur dit : « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens à vous. » C'est-à-dire que dans une situation extrême que nous pouvons connaître, le Seigneur s'adresse à l'ensemble de ses disciples. Et il leur dit : « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viens à vous. » Et au verset 21, nous voyons que le Seigneur fait la même promesse, non plus collectivement, mais individuellement. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Dans quelques difficultés, détresses que nous pouvons connaître, eh bien, nous voyons que celui qui garde les commandements du Seigneur, qui l'aime, qui a de l'affection pour lui, non seulement sera aimé de mon Père, mais je me manifesterai à lui, personnellement, individuellement. Même dans la sombre vallée, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, tu seras avec moi. Encore un dernier passage dans Apocalypse, au premier chapitre. Verset 9, « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus un esprit dans la journée dominicale et j'ouïs derrière moi une grande voix comme d'une trompette disant : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept assemblées. Verset 12, et je me retournai pour voir la voix qui me parlait. Verset 17, lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il mit sa droite sur moi. Et il mit sa droite sur moi, disant, ne crains point, moi je suis le premier et le dernier et le vivant, et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Dans l'apôtre Jean, nous voyons un croyant qui se trouve isolé. Il a été sans doute banni, d'après ce que on nous dit dans l'histoire religieuse, banni et exilé par l'empereur de ce moment-là. Et il s'agissait donc d'un saint qui était éprouvé dans la souffrance, seul sans doute dans cette île de Patmos, peut-être prisonnier. Et nous voyons qu'il est en esprit dans la journée dominicale. Et puis il entend une voix. Derrière lui, une grande voix comme d'une trompette. Il semble que dans cette île de Patmos, il était loin d'une assemblée, loin d'autres croyants. Certains auteurs ont dit que peut-être qu'il était abattu et que le Seigneur Jésus qui se présente à lui, derrière lui, avec une grande voix, eh bien s'adresse à lui comme d'une trompette, peut-être pour le réveiller dans cette circonstance tellement douloureuse. Sans doute c'était une voix familière pour lui, mais dans cette circonstance, c'était la voix du Seigneur comme juge, comme cela nous est présenté dans les versets 12 à 16. Et c'était la voix d'un juge qui avertit et qui désire qu'il soit attentif à ce qu'il va lui dire. Et c'est pour ça qu'il entend cette voix comme d'une voix de trompette. Alors nous aurions pu penser que c'était la fin de la carrière de l'apôtre Jean, que c'était fini. Eh bien, c'est dans de telles circonstances, bien que le Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu, lui a communiqué le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, la Révélation, un livre tellement utile pour toutes les générations de chrétiens, de croyants qui allaient suivre. Et nous devons faire toujours très attention de ne pas nous précipiter à juger les choses comme nous pouvons les penser. Il était sans doute banni, il était sans doute exilé dans la souffrance. Il dit qu'il avait part avec d'autres à la tribulation, à la persécution. Mais même seul, nous voyons que le Seigneur va lui être en aide et va lui communiquer un livre si précieux. On peut se rappeler aussi que l'apôtre Paul, dans des circonstances peut-être assez similaires, quand il était prisonnier dans une geôle, eh bien c'est là, alors qu'il était seul, et bien qu'il a pu écrire sous la direction du Saint-Esprit des épîtres si précieuses. On aurait pu dire, mais c'est fini de l'apôtre Paul. Mais pas du tout. C'est-à-dire, même dans des circonstances d'une solitude extrême, prisonnier dans une geôle, dans les prisons de l'empereur, eh bien, l'apôtre Paul a pu écrire de telles épîtres pour notre consolation et pour notre édification. Et pourquoi le Seigneur permet que de telles choses nous soient laissées? Eh bien, c'est pour nous montrer la faiblesse extrême de l'homme, la faiblesse extrême qui nous caractérise. Nous sommes sans doute des vermisseaux, mais c'est à travers des vermisseaux, entre guillemets, comme l'apôtre Jean, comme l'apôtre Paul, que Dieu lui-même a pu se glorifier dans notre faiblesse, dans la faiblesse de ses instruments. C'est la grande leçon que nous devons tirer. Juste un mot encore sur le verset 17. Après que le Seigneur se soit présenté comme ce juge dans toute sa magnificence, eh bien l'apôtre, il le voit, il tombe à ses pieds, et nous voyons le bon berger que nous avons évoqué aussi tout à l'heure, qui met sa main droite sur lui. Et le Seigneur lui dit, voilà, au verset 18, « J'ai été mort ». Et c'est une expression en grec qui veut dire « je suis devenu mort ». C'était un acte de ma volonté. J'ai accepté de mourir pour toi. C'est la signification de ce mot, de cette expression « j'ai été mort ». Je suis devenu mort. Ça a été de ma volonté, j'ai accepté de mourir pour toi. Et en plus, nous voyons que dans ce passage, le Saint-Esprit veille à maintenir la dignité du Seigneur. Quand est exprimée la profondeur de son humiliation, il dit, je suis le premier et le dernier. Et là, il montre que je suis le premier, c'est sa dignité de Dieu, c'est Dieu, c'est lui, Dieu, qui est au commencement de tout. Et le dernier aussi, c'est la dignité du Seigneur comme Dieu. Et nous voyons dans ces expressions tout à fait remarquables la bonté du Seigneur qui met sa main droite sur l'apôtre Jean et qui lui rappelle qu'il a été mort qu'il a été mort pour lui et qu'il ne peut pas l'abandonner même dans une situation extrême. Quel Seigneur nous avons !
Quelques lectures encore de la parole après ce qui nous a été lu, particulier pour faire suite à cette circonstance extraordinaire où Jean a entendu cette voix. Et on voit dans plusieurs passages de la parole des hommes, des femmes qui entendent une voix, la voix, alors qu'ils étaient spécialement dans une période de tristesse, vous avez besoin d'encouragement. Vous pourrez lire simplement ces passages, les commenter brièvement. Je ne vais pas faire très long. Le premier, il nous faut retourner dans ce premier livre des Rois, où on a déjà lu quelques versets à propos de ce serviteur Élie, mais plus loin, dans le chapitre 19. Élie avait remporté une grande victoire. Et puis, il y a eu ce moment où il s'en est allé dans le désespoir, découragement. On lit au verset 10 du chapitre 19 du premier livre des Rois. Voici la parole de l'Éternel vint à lui, à Élie, et lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il dit, « J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté, moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Et il dit, « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel un grand vent impétueux déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, du feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce, subtile. Et il arriva quand Élie l'entendit, qu'il enveloppa son visage dans son manteau et sortit, et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui parla et dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il dit, « J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Et plus loin dans ce passage, Dieu doit lui dire que, au verset 18, « Je me suis réservé en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé. » Montrant bien que cette conception, cette idée qu'il avait développée, qu'il était resté lui seul sans avoir ployé le genou, était fausse, qu'il s'était égaré dans son esprit. Mais c'était très frappant ici de voir cette douceur de ce Dieu qui veut se révéler à son serviteur fidèle, mais son serviteur découragé. Dieu ne le laisse pas là où il est. Il vient à lui, et c'est frappant que Dieu ne se manifeste pas dans ces différents caractères de gloire, de puissance, un tremblement de terre, le feu, jugement, un grand vent, il se manifeste à lui par cette voix douce et subtile C'est certainement ce que Élie avait besoin d'entendre à ce moment pour être touché dans son cœur. Et certainement aussi que lorsque nous sommes découragés, lorsque nous avons des moments, peut-être même aussi nous nous sommes élevés en quelque sorte, on ne va pas juger Élie non plus, mais dans notre esprit, eh bien, nous avons besoin d'entendre cette voix pleine de grâce, ta grâce atteint, Seigneur, jusqu'aux cieux, cette voix pleine de grâce, douce, subtile, pour nous parler, pour parler à nos cœurs et pour nous faire revenir à lui. L'évangile de Jean. L'évangile de Jean, au chapitre 10. Chapitre 10 de l'évangile de Jean. Au verset 3, à celui-ci le portier ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et il appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. Et quand il a mis dehors toutes ses propres brebis, il va devant elles et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Verset 6, Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent pas que c'était ce que c'était qu'il leur disait. Le Seigneur ici s'adresse aux siens, à son peuple. Il y a toute une signification ici par rapport à l'état de ce peuple Israël qui était enfermé dans un système, celui de la loi. Et il leur introduit ici ce qu'il est lui-même, ce bon berger qui est venu pour ses brebis, pour les faire sortir de cette bergerie, de cet enclos où ils étaient enfermés. Mais alors ce verset qu'on peut appliquer ou auquel on peut s'encourager tous, c'est plus une exhortation ici, les brebis écoutent la voix du bon berger. Et que ce soit notre désir à tous d'écouter cette voix douce qui veut nous ramener à lui quand nous nous sommes parfois peut-être découragés, quand nous nous sommes peut-être écartés. Que Dieu veuille nous donner d'écouter cette douce voix, de chercher sa présence et de revenir à lui. Encore un verset dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, c'est des passages que tous connaissent certainement très bien, mais peut-être que le fait de les mettre ensemble nous permet de les retenir. Marc chapitre 6. Après une longue journée d'activité, on lit au verset 47, ou même au verset 46, à la fin, il s'en alla sur une montagne pour prier. Et le soir étant venu, la nacelle était au milieu de la mer, et lui seul à terre. Et les voyant se tourmenter à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il vient vers eux, marchant sur la mer, et il voulait passer à côté d'eux. Mais eux, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le virent tous, et ils furent troublés. Et aussitôt il parla avec eux, et leur dit, « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur. » Et il monta vers eux dans la nacelle, et le vent tomba. Et ils furent excessivement frappés et étonnés en eux-mêmes, car ils n'avaient pas été rendus intelligents par les pains, car leur cœur était endurci. Combien de fois on a dû faire cette expérience aussi, de se tourmenter à ramer. On comprend bien que pour nous, c'est peut-être dans un sens figuré. On se tourmente, on fait tout plein d'efforts pour vaincre les circonstances de la vie qui nous sont peut-être contraires, on pense que peut-être le Seigneur Jésus nous a oubliés, alors qu'il est là, sur la montagne, il prie, il voit, il nous voit chacun dans nos circonstances, il sait où nous en sommes, il n'oublie aucun des siens. De son côté, il n'y a jamais de défaillance. D'une autre, bien souvent, Mais de son côté, il n'y a jamais de défaillance. On voit dans un psaume 121, sans fureur, que l'Éternel est celui qui ne sommeille pas. Il ne dort jamais. Ses chers disciples, combien souvent on leur ressemble, sont désemparés. Ils luttent par leur propre force, on pourrait dire. Mais voilà quelqu'un qui s'approche. Dans un premier temps, c'est la peur, la crainte. Ils ne le reconnaissent pas. Ça peut nous arriver peut-être aussi à nous de ne pas reconnaître le Seigneur Jésus qui est pourtant tout près. Il est tout près, il est là. Mais on ne l'a pas reconnu. Il ne laisse rien au hasard. Ces circonstances, cette tempête, ce qu'il permet, ce n'est pas du hasard. Il est là. Il est tout près. Et peut-être qu'on criera à lui, ou qu'on crie sans même penser à s'adresser directement à lui. Mais lui, ici, c'est lui qui se révèle. Il leur parle. Il parla avec eux et leur dit « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur. » C'est intéressant de chercher dans les évangiles toutes ces mentions, cette sauf erreur, où cette parole est accordée à l'un ou l'autre des siens. « Ayez bon courage. Ayez bon courage. » Alors à l'instant, ils reconnaissent sa voix et tout change. Le vent tombe. Les circonstances deviennent favorables, mais surtout le Seigneur est là. Le Seigneur est là avec eux, plus de crainte. Et comme par étonnement, c'est dans un passage parallèle que nous lisons cela, ils arrivent au but, au port qu'ils avaient devant eux. La voix du Seigneur Jésus dans la tempête. Dernier verset encore dans l'évangile de Jean, à nouveau au chapitre 20. Évangile de Jean, chapitre 20. C'est le matin de la résurrection. Mais Marie de Magdala, qui aimait son Seigneur d'une manière tellement vivante, pleure. Verset 11, Jean 20, verset 11, « Mais Marie se tenait près du sépulcre dehors et pleurait. Comme elle pleurait encore, elle se baissa dans le sépulcre et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Et lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se tourna en arrière et elle voit Jésus qui était là. Elle ne savait pas que ce fut Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si tu sais où on l'a emporté, si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'ôterai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle, s'étant retournée, lui dit en hébreu, « Rabboni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala va rapporter aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit ces choses. Le matin de la résurrection, un matin à nul autre pareil, avec des circonstances, avec des conséquences incalculables pour l'humanité et pour chacun d'entre nous. Nous sommes dans le jardin où il y a ce sépulcre, où le corps du Seigneur, de notre Seigneur, a été déposé, et il y a là une femme qui pleure. Cette femme qui pleure, c'est une femme qui avait un amour, on ne veut pas faire de qualification, mais un amour particulier pour son Seigneur, parce qu'elle avait été délivrée aussi d'une manière extraordinaire. Cette démon, elle pleure, elle aimait son Seigneur. Est-ce que le Seigneur Jésus veut laisser ceux qui pleurent dans les larmes ? peux permettre des larmes. Vendredi après-midi, dans notre région, il y avait l'enterrement d'un cher croyant, un oncle. Ça arrive tous les jours sur la face de cette terre, des personnes que le Seigneur reprend, il y a des larmes. Le Seigneur n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de larmes dans ce monde, même pour les siens. Mais la différence, c'est que des périodes difficiles, comme des périodes heureuses d'ailleurs, on peut les passer avec notre Seigneur, avec le Seigneur Jésus qui est là, qui est tout prêt. Et si à nouveau cette femme, elle n'avait pas reconnu que c'était le Seigneur Jésus. Parfois, c'est l'obscurité qui peut voiler nos yeux. Parfois, c'est les larmes aussi qui nous empêchent de voir le Seigneur Jésus. Elle n'avait pas reconnu, mais quand le Seigneur Jésus s'adresse à lui par son nom, elle le reconnaît. Marie, quand elle entend son nom, quand elle entend cette voix, aimée, cette voix qu'elle avait connue, eh bien, elle se tourne et elle lui rend hommage. Elle l'appelle de ce nom si doux, de maître. Seigneur, on pourrait dire peut-être pour nous. Quelle relation entre Marie et son Seigneur, et est-ce que c'est réservé seulement à Marie? Une relation telle que celle-là? Certainement pas. Certainement que ça réjouit le cœur du Seigneur Jésus si nous cherchons, chacun d'entre nous, les jeunes, les âgés peut-être, les enfants aussi, si on cherche, si on a à cœur de rechercher cette connaissance du Seigneur Jésus, cette connaissance proche, cette connaissance intime du Seigneur Jésus, et de pouvoir aussi reconnaître quand sa voix nous appelle par notre nom. Marie a reconnu le Seigneur Jésus, son nom. Ce qui est merveilleux aussi, c'est que à ce moment-là, Marie a un privilège extraordinaire de percevoir, d'entendre une révélation avec une portée incalculable qui est faite là, on peut dire pour la première fois de manière claire, celle que désormais, en vertu de cette œuvre de la croix et de la résurrection, cette victoire, eh bien, non seulement ce Seigneur qui était le Père, ce Seigneur qui avait une relation avec son Père dans le ciel, ce Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons maintenant nous aussi l'appeler notre Père. C'est une révélation extraordinaire faite à une femme, on dirait aujourd'hui une paria de la société, une moins que rien. Eh bien, c'est cette femme-là qui a cette révélation-là. Comme au puits de Sichar, une moins que rien a pu avoir cette révélation aussi, que le Père en cherche de tel qu'il adore en esprit, en vérité. Dieu se révèle à ceux qu'il veut, avec des révélations, les révélations qu'il veut, au moment où il le veut. Et ici, il le fait au cœur de cette femme qui le cherchait, qui l'aimait, qui était triste, mais qui a eu le cœur changé en joie, puisque ensuite, de joie, et peut-être c'est quelque chose qui devrait nous caractériser aussi, plus, Marie de Magdala vint rapporter aux disciples qu'elle a vu le Seigneur. Elle l'a vu, elle l'a entendu, elle veut en témoigner à ses frères, à ses sœurs. Le Seigneur nous encourage à chercher cette voix, cette douce voix de notre Seigneur, du bon berger, à la chercher au quotidien, pas seulement quand il y a des circonstances difficiles ou pénibles, à chercher au quotidien, chercher sa présence aussi, et il se révélera certainement à nous.
Ajouter courtement encore deux mots en rapport avec l'autre Marie, en Marc 14, à Béthanie. Marc 14, 3, comme ils étaient à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il était à table, une femme vint ayant un vase d'albâtre, plein d'un parfum de nard pur et de grand prix. Ayant brisé le vase, elle le répandit sur sa tête. Et quelques-uns étaient là qui s'indignaient en eux-mêmes et disaient « À quoi bon la perte de ce parfum ? Car ce parfum aurait pu être vendu plus de 300 deniers et être donné aux pauvres. » Et il la reprenait vivement. On a évoqué la solitude. Quelle solitude a pu être celle de Marie à ce moment-là? Elle venait, comme Marie de Magdala au tombeau, pour son Seigneur, apportant ce parfum, oui, de grand prix, entièrement pour lui. Et qu'est-ce qu'elle entend autour d'elle? Des reproches. Dit, il est bien dit, il la reprenait vivement. Dans Jean, c'est Judas qui prend la parole, qui dit, ce vent parfum aurait pu être vendu plus de 300 deniers. Quelle solitude, mais qui ne dure pas longtemps. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui donnez-vous du déplaisir? Elle a fait une bonne œuvre envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Elle a anticipé le moment d'oindre mon corps pour ma sépulture. Quelle parole d'appréciation du Seigneur Jésus pour ce qu'a fait Marie. D'un côté, cet instant de grande solitude. Nous n'imaginons pas ce qui a pu se passer dans l'âme de Marie. Est-ce qu'elle était entièrement confiante? Mais probablement quand même remuée par ce qu'elle entendait. Mais ça ne dure pas longtemps. Le Seigneur l'approuve pleinement. Oui, ce que tu as fait, tu devais le faire. Et le dernier verset est remarquable. Chaque fois que nous lisons ce passage, nous rendons concret ce que le Seigneur dit dans ce dernier verset. En vérité, je vous dis, en quelque lieu que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. La pleine approbation du Seigneur, la pleine approbation du Seigneur au moment même, pour Marie, présente à ses pieds, la pleine approbation du Seigneur pour elle, dans ce qu'elle a fait, comme image de ce que chacun nous pouvons apporter au Seigneur, de ce que le Seigneur est en droit d'attendre, de recevoir. Un encouragement pour le plus humble, celui qui sent le moindre, d'apporter cette reconnaissance, cette louange au Seigneur. Quel encouragement de la part du Seigneur lui-même pour Marie.
Très rapide parce que l'heure est là, mais simplement revenir sur le passage que nous avons lu en Marc 6. Mais avant ça, peut-être relire un verset dans le livre de Josué au chapitre 1er au verset 9. Josué chapitre 1er verset 9, ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifier et ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Ne te laisse point terrifier et ne sois point effrayé. Est-ce qu'on ne peut pas dire, chacune et chacun dans cette pièce, que forcément à un moment donné dans notre vie, qu'on soit jeune ou qu'on soit avec des cheveux blancs dans l'âge avancé, est-ce qu'il ne nous est pas arrivé un moment où on a été fortement terrifié, angoissé par les situations, quelle que soit la situation. Et si ça nous est arrivé, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'on a vécu quelque chose avec le Seigneur si on laisse quelques journées, quelques mois, quelques années passer sur cette épreuve et qu'on regarde en arrière? Qu'est-ce qu'on voit? Et je pense que, en tout cas pour ma part, j'en ai fait l'expérience, je crois qu'on voit une partie de ce qu'on peut voir dans ce verset, dans ce passage de Marc 6. Alors, on est allé lire Marc 6 et puis on s'est arrêté. Je crois qu'on a commencé au verset 46 ou 47 de mémoire. Et si on remonte un tout petit peu, la circonstance est différente. Pour la plupart d'entre nous connaissons cette histoire. Il fallait nourrir une foule. Et puis le Seigneur demande aux disciples, ben vous, allez, nourrissez-les. Et puis si on lit juste ce verset 42, ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux, 12 paniers pleins et des restes de poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Le Seigneur a fait bien plus que de nourrir cette foule. Il l'a nourrie, il l'a rassasiée, et puis il y avait 12 paniers de restes. Est-ce que quand on est terrifié, angoissé dans nos vies, qu'on peut vivre une épreuve et qu'on prend le temps de regarder un peu en arrière, est-ce qu'on ne voit pas aussi bien souvent dans nos vies ces 12 paniers de restes? Le Seigneur a répondu. Et bien souvent, il fait bien plus que répondre. Il y met même du reste. On grandit. On apprend. On apprend de lui. Et ça me fait penser, je voudrais terminer sur cette pensée, à ce cantique que probablement vous connaissez tous. Moi, je m'en souviens bien parce que mes parents me le chantaient quand on était petits. C'est « Compte les bienfaits de Dieu ». Une des strophes qui dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu ». Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand.